Et si l'anthropologie était accessible à toutes et tous ? Marien, anthropologue, propose une série de minutes anthropologiques pour découvrir cette discipline et tenter de mieux comprendre le monde qui nous entoure. L'ensemble des épisodes est disponible sur notre site internet fréquencemistral.com. Épisode 11.
Le chrysanthème et le sabre est un ouvrage anthropologique de Ruth Benedict qui illustre bien le caractère souvent superficiel que l'on attribua à ses œuvres. Ce livre est à l'origine une commande passée en 1944 par le Pentagone pour tenter de mieux comprendre les mentalités japonaises et préparer la future occupation du pays. Ce rapport fut remis l'année suivante alors que la guerre n'était pas finie et surtout que l'auteur n'avait jamais travaillé jusqu'alors sur la société nippone. Ce livre fut publié en 1946, puis traduit dès 1948 au Japon, où il devint un best-seller. Alors que les combats faisaient encore rage entre les forces américaines et japonaises, Ruth Benedict s'est attachée à analyser de la manière la plus objective possible la mentalité dans l'archipel à partir de présupposés qu'elle a développés de manière théorique dans des ouvrages précédents. Elle s'est basée tout d'abord sur des archives, sur des documents disponibles aux États-Unis. Puis, elle développa des conclusions qui étaient fortement discutables, mais qui devinrent d'une importance politique majeure. Il ne faut pas toucher à la figure impériale après l'occupation. Douglas MacArthur l'a suivi sur ce point, et Hirohito fut exempté de toute poursuite pour crime de guerre. Sa thèse tente de définir le pattern, le modèle dont nous avons déjà parlé, culturel japonais à partir de notions comme l'obligation, la dette et le devoir, qui sont des manières de montrer que, je la cite, « la vertu au Japon dépend de la reconnaissance de sa propre place dans le grand réseau des dettes mutuelles, réseau qui englobe à la fois ancêtres et contemporains. » Pour elle, la notion centrale est finalement la honte. Les Japonais doivent se tenir et agir conformément au code appris quand ils sont en public. Cependant, ils peuvent s'en détacher, mais uniquement à l'abri des regards. La société américaine serait, d'après elle, déterminée dans ses conduites collectives par la peur de la faute, c'est-à-dire du péché sous le regard de Dieu. Partant de là, on a trop souvent simplifié sa thèse en opposant des sociétés de la honte, qui seraient des sociétés holistes, à des sociétés de la faute, qui seraient les nôtres, des sociétés plus individualistes. En pleine guerre, sans avoir pu faire de terrain, comme je vous l'expliquais, en prenant comme matériau la littérature traduite, quelques films d'avant-guerre et en réalisant des entretiens auprès de prisonniers de guerre et d'immigrés japonais internés, Ruth Benedict parvint à décrire sans erreur manifeste le fonctionnement du pattern japonais. La méthode lui fut évidemment reprochée et on peut se demander s'il existe réellement un idéal type japonais et si on peut établir un modèle sans tenir compte de l'historicité d'une société, sans même y avoir mis les pieds, sans même n'y maîtriser la langue. Il n'en reste pas moins que son travail fut l'objet, dans le Japon des années 50 et 60, d'un nombre considérable de colloques ou de numéros spéciaux de revues. Si Ruth Benedict insiste beaucoup sur la notion de dette, elle ignore entièrement le sentiment d'humanité, une autre valeur qui a pu caractériser la société nippone. Aujourd'hui, la société japonaise s'est considérablement éloignée du modèle décrit dans le chrysanthème et le sabre, si tant est que ce dernier n'ait jamais fonctionné ni même existé. Cet ouvrage demeure toutefois un morceau de bravoure anthropologique à distance, mais représente également les erreurs dans lesquelles les anthropologues peuvent se murer.
L'ensemble des épisodes est disponible sur notre site internet fréquencemistral.com.